Je voudrais tout d'abord remercier mes chers amis Olivier Beau et François Sabonnet qui m'ont donné le plaisir, il y a exactement 60 ans, j'étais étudiant en première année, de revenir dans cette université que je n'ai pas dire. Je m'ai quitté simplement parce que je me suis rendu compte que les marches sont devenues beaucoup plus hautes et les escaliers beaucoup plus raides maintenant. Merci pour, surtout pour avoir confié l'introduction à ce colloque à la voix de Rome, à l'expérience romaine qui sera évidemment présentée par l'intermédiaire d'un bien piètre avocat. Mon thème, l'accès à la citoyenneté dans la Rome républicaine entre principes juridiques et contraintes politiques, est évidemment extrêmement vaste, donc je suis obligé de ne donner que quelques petits exemples un petit peu d'écoutes. Nos ancêtres, les Gaulois, et au lendemain de la guerre, c'est la première leçon d'histoire que j'ai reçue à l'école primaire. Il m'a fallu des années pour comprendre la valeur de ce pseudo-dogme. Il n'était pas seulement vide de toute signification historique, mais il avait surtout une portée idéologique remarquable. C'était un mythe produit par un inconscient, produit d'un inconscient nationaliste et, pour le dire d'un mot, xénophobe. La question mérite d'être posée à Rome en suivant le même chemin. Quelles leçons nous donnent les mythes primordiaux sur la place de l'étranger, sur le caractère ouvert ou fermé dans l'inconscient collectif de la cité de Rome envers l'autre? Deux mythes fondateurs me semble ici éclairant. Tout d'abord, Énée, le premier héros troyen fondateur de Rome, diffusé surtout par Tite-Live et par Virgile, c'est-à-dire au moment de l'affirmation de la puissance romaine qui atteint son apogée à l'époque d'Auguste, la légende de l'origine troyenne de Rome porte une précieuse leçon. Sans doute dépourvue de vérité historique, peu importe, cette légende est un mythe dans lequel la mentalité romaine aime se retrouver, un mythe qui exprime un désir inassouvi et non complètement satisfait, un mythe qui éclaire le tréfonds des choix politiques et culturels de la communauté civique. Or, que nous enseigne cette belle histoire? Les Romains ne sont pas nés d'ici. Ils sont venus de l'extérieur, étrangers à leur propre sol. Les pères fondateurs ne sont pas nés du sol, ils ne sont pas sortis du sol. Et César est fier de s'affirmer descendant d'Ascagne, fils d'aîné, Romulus, descendant direct d'Ascagne. Les pères ne sont donc pas nés du sol, si les pères ne le sont pas. Les mères ne le sont pas non plus, et je me réfère au second mythe, celui de l'enlèvement des Sabines, trop connu pour que je m'y attarde. Les premières mères du peuple romain viennent de l'extérieur, ravies, enlevées au peuple sabin, étrangers et ennemis du premier noyau romain. L'histoire, sur une base plus certaine, confirme cette ouverture congénitale. Par leur origine, les premiers rois de Rome, albains, latins, sabins, étrusques, illustrent l'extraordinaire perméabilité d'un site et les multiples sources de son peuplement. Multiples sources des institutions, de la religion, de l'art et de la culture qui puisent dans ses apports extérieurs pour se construire. Quittons un instant Rome pour une lecture du même genre sur le monde des cités grecques. Les mythes fondateurs renvoient une image radicalement opposée. Les cités grecques revendiquent l'autochtonie la plus rigoureuse. En Béotie, la ville de Thèbes, les premiers citoyens de Thèbes sont tous nés de héros fondateurs qui sont nés des dents d'un dragon plongé dans le sol, donc ils sont sortis du sol de la Béotie. À Athènes, le premier citoyen, Erichthonios, comme son nom l'indique, a été tiré du sol, né du désir d'Héphaïstos, qui féconda le sol de l'Attique. L'avenir des cités grecques se trouva ainsi scellé, rigoureusement clos, fermé à tout apport de l'extérieur. Ni l'émigré, ni l'affranchi, ni les habitants d'un territoire conquis, ni même souvent l'enfant né d'une union mixte, ne pourront franchir la barrière d'une citoyenneté exclusive. Tout oppose ici le monde grec fermé au monde romain, celui d'une cité ouverte, nourrie dès ses premiers temps d'apports extérieurs. Mais il faut quitter le monde des mythes pour une analyse plus juridique et politique et sociale. Quelle possibilité d'accès à la cité de Rome pour l'étranger? Je distinguerai ou je devrais distinguer deux aspects, les principes dominés par une exceptionnelle ouverture, mais que, second point, certaines contingences ont contredit en de rares et caractéristiques occasions. Tout d'abord, la constitution du corps civique fondée sur le principe d'une ouverture totale. une ouverture totale, j'insiste bien sur ce point, qui ne signifie pas une improvisation permanente, l'absence d'une politique rigoureusement construite. Il n'y a pas à Rome une doctrine de l'immigration, il n'y a pas une construction juridique de l'accès à la civitas. Les Romains n'aiment pas dogmatiser et théoriser, mais je pense qu'on peut, sans trop s'engager, dire qu'il y a une telle cohérence, une telle continuité dans la politique romaine que l'on peut parler vraiment ici d'une politique suivie, mûrement méditée par le Sénat au cours des siècles successifs et dont nous pouvons essayer de retrouver les principaux traits. On peut en trouver les manifestations à trois niveaux. Et il faut faire parler ici les sources, interprètes et interpréter les témoignages. L'incorporation globale et collective par l'effet de la conquête, l'émigration individuelle, c'est-à-dire qui ouvre à l'étranger, restant étranger sur le sol romain, quelle est sa condition, et l'accès à la citoyenneté par le biais de la liberté. L'extension de la citoyenneté par la conquête est un sujet qui est immense. Le principe qui sera appliqué par Rome dès ses premières conquêtes, dès le 5e siècle, qui ne sera jamais remis en cause, et le suivant, toute extension territoriale entraîne l'incorporation immédiate et complète, dans les premiers temps, dans la citoyenneté de l'ennemi défait. Ces extensions du 5e au 3e siècle se suivent sur une carte, très facilement, comme autant de cercles concentriques de plus en plus vastes. Le contenu, incorporation dans la citoyenneté romaine complète, je le disais, et des terres et des hommes, il n'y a pas de déplacement de population, et les nouveaux citoyens restent dans des centres spécifiques à s'administrer, mais ils ont accès à tous les droits privés et politiques des Romains. La nature de l'incorporation, les historiens romains nous parlent d'un honneur, en réalité ça n'en est pas un, la conquête intègre et assimile, elle est une forme d'extension de la puissance romaine. À partir du 3e siècle, je passe sur les détails qui seraient trop compliqués d'exposer, vous connaissez tous, à partir du 3e siècle, les contraintes d'une cité-État font que l'incorporation totale dans les droits politiques n'est plus pratiquée, et c'est une forme, François Sabanet parlait d'un stage possible, je pense que la citoyenneté sans suffrage peut être comprise comme précisément cette forme de stage, c'est-à-dire que pendant un temps qui est plus ou moins long, en fonction des capacités d'assimilation et d'intégration, Rome incorpore dans une demi-citoyenneté, ou dans une citoyenneté qui ne comporte pas tous les droits, c'est le terme le plus exact, citoyenneté sans suffrage, les cités soumises à sa puissance, les cités défaites. Et selon un temps qui peut durer un siècle, un demi-siècle, un quart de siècle, ces citoyens seront ensuite progressivement intégrés dans une citoyenneté totale. Voilà quelles sont les formes donc de l'incorporation par la conquête. Au contraire, en Grèce, on le sait, cette forme serait totalement impossible, puisque par le principe de l'autochtonie, un étranger ne peut jamais incorporer les cadres de la cité, les formes de l'impérialisme recourent à d'autres formes qui sont beaucoup moins parfaites. C'est un système de ligue qui présente deux inconvénients, où il est trop ferme, et c'est la révolte, où il est trop lâche, et à ce moment-là, l'impérialisme ne peut pas imposer sa loi. Le deuxième aspect que pose le problème juridique et politique, c'est celui de l'immigration individuelle. Il ne s'agit pas du jus migrandi sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie. Ici, la condition de l'étranger qui se pose, c'est celle du pérégrin, c'est-à-dire de l'étranger résident à Rome. Et ici, on doit dire qu'il n'y a aucune infériorité. Il y a une libre circulation des personnes, le respect du droit de cet étranger qui, sur le sol romain, a accès à la protection de sa liberté individuelle et de ses droits. Pour son droit privé, il reste soumis naturellement à ses lois locales, mais il ne souffre aucune infériorité sur ce point. Il y a bien sûr quelques épisodes de tension, comme l'expulsion des philosophes grecs qui, au IIe siècle, ont été expulsés de la cité de Rome parce qu'ils inquiétaient, mais on peut dire que la circulation des idées, les premiers historiens de Rome, ce sont des Grecs, la philosophie doit tout à la Grèce, et par conséquent, il y a ici une circulation extrêmement ouverte. L'étranger est accueilli sur le sol romain. Et je dirais simplement, à titre d'illustration, que le terme barbare et le concept même de barbare n'a rien de grec, n'a rien de romain, grec au contraire, par conséquent, le romain étranger, l'étranger sur le sol romain est une personnalité qui est tout à fait respectée et reconnue. Le troisième aspect, c'est celui du passage de la servitude à la citoyenneté. C'est la troisième caractéristique la plus symptomatique d'une cité, d'une citoyenneté potentiellement ouverte d'une manière illimitée et dont les conditions d'accès ont répugné à toute espèce de contrôle. Je rappelle quelques principes immuables. L'esclave et n'a aucune personnalité juridique, c'est une chose, un simple objet. Mais par la volonté de son maître, par un acte de pur droit privé, il peut accéder d'un coup de la servitude à la liberté et, c'est le terme le plus important, à la citoyenneté. Et cet acte du maître est un acte discrétionnaire, aucun contrôle sur ce point de l'autorité publique. L'esclave libéré prend le nom de son patron et à la génération suivante, rien par le nomastique ne le distingue des descendants par le sang. Et un Cornelius Sulla, on ne peut pas savoir quand une inscription présente son nom, s'il est un descendant de la célèbre gens patricienne ou s'il est le descendant d'un esclave appartenant à un des membres de ce lignage et qui a accédé à la liberté. Est-ce qu'il faut parler de confusion des lignages, si l'on veut? En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les Romains n'ont jamais tenté, parce qu'ils ne l'ont jamais voulu, introduire un discriminant, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu odieuse, une sorte de marqueur de la macule servile. La recherche est, pour les modernes, impossible, bien qu'ils en soient très curieux. Je donne un simple exemple. Un lot d'archives a été découvert il y a maintenant quelques années, quelques dizaines d'années, dans les environs de Naples, et qui a fait apparaître au jour une famille de banquiers, les Sulpicii de Muricine. Et il est absolument impossible, jusqu'ici on a tâtonné, mais on ne peut pas savoir, s'ils sont les descendants par l'affranchissement de la grande famille des Sulpicii Galba, ou si ce sont les membres d'une aristocratie locale. Par conséquent, poser la question de l'origine servile ou pas d'un rameau, d'un lignage romain, c'est une question que les Romains ne se sont pas posée, et je dirais, parce qu'ils n'ont pas voulu se la poser. Et là encore, un coup d'œil sur le monde grec montre qu'il n'en serait absolument pas de même. En Grèce, l'affranchi porte deux noms communs qui sont tout à fait caractéristiques, apeleutheros ou aphétès, c'est-à-dire rendu à la liberté. Lâché à la liberté, comme on le dirait d'une chèvre qui a été débarrassée de son collier ou de sa chaîne. L'esclave affranchi en Grèce accède à la liberté, mais sans être reçu dans aucune cité, parce qu'aucune cité, du fait de l'autochtonie, ne peut le recevoir. Par conséquent, c'est de manière indélébile et héréditaire une sorte d'apatride permanente qui ne sera protégée que par la vocation du dieu Apollon, du dieu de Delphes. Voilà donc quelle différence l'on voit immédiatement entre le monde romain et le monde grec. Voilà quels sont les principes sur lesquels la puissance de Rome s'est construite. Des principes qui sont suivis de la réalité. Une extension en nombre et en espace, l'accueil de tous les talents, une intégration continuelle et réussie d'une masse venue de toutes les ethnies du monde romain. Mais il y a aussi des moments de tension, je dirais des ratés, qu'il est permis d'attribuer à l'effet de contingence, je suis peut-être trop indulgent pour Rome, à l'effet de contingence ou d'erreur, que l'on peut considérer comme rarissime, d'erreurs d'appréciation dans la politique romaine, des accidents, en quelque sorte, comme malheureusement ils sont produits toujours, ou ils risquent de s'en produire toujours dans l'histoire, ou même dans l'histoire contemporaine. Je voudrais, dans ce second point, évoquer rapidement le poids des contingences sous deux formes, les édits d'expulsion et la guerre sociale. À deux moments particulièrement dramatiques, la politique romaine d'ouverture révèle des ruptures. Par la portée politique et juridique de la première, par l'extrême violence de la seconde, les principes romains semblent vaciller. Tout d'abord, la suspension provisoire du jus migrandi, victime de mesures d'expulsion. Le jus migrandi, déjà évoqué mais non défini, est une institution très originale, qui se définit comme le droit pour les citoyens non romains, les citoyens pérégrins, des colonies dites latines et des cités fédérées, qui étaient étendues ensuite, les cités fédérées d'Italie, de venir s'installer à Rome, à condition de laisser sur place un descendant afin d'éviter la dépopulation de ces centres, et en se déclarant au moment du recensement au censeur, de devenir ainsi citoyen romain, naturellement avec tous les droits des citoyens romains. Ce privilège remonte au moins au IVe siècle avant Jésus-Christ, si ce n'est au Ve siècle. Mais voilà que brusquement, après deux siècles de fonctionnement, ce système se grippe au lendemain de la Seconde Guerre punique. Le Sénat saisit des plaintes des colonies latines, dénonçant une hémorragie civique du fait de l'immigration et d'une fraude, une adoption fictive qui permettait de faire semblant de laisser un fils sur place, ce qui n'était pas le cas. Voilà que le Sénat répondit favorablement à ces plaintes et en 187, puis de nouveau en 177, refoula les émigrés arrivés depuis 204, c'est-à-dire depuis 17 ans, par deux décrets d'expulsion. En 187, le Sénat décida de renvoyer 12 000 latini, qualifiés de latini, en fait 12 000 citoyens devenus romains, citoyens romains par leur émigration, et d'autre part, en 177, une deuxième mesure d'expulsion qui renvoya tous les novi quives, devenus romains, depuis les 10 années antérieures. La brutalité de l'attitude du Sénat a frappé et ému, on peut dire à juste titre, au point que certains historiens récents furent tentés de justifier ces mesures d'expulsion ou de les expliquer à la lumière des principes modernes d'acquisition de la nationalité, ce qui n'est peut-être pas une très bonne voie pour expliquer les institutions antiques. Et ces interprètes, convaincus que la citoyenneté, une fois régulièrement acquise, parce qu'il est évident que les fraudes ne devaient toucher qu'une partie tout à fait minoritaire des nouveaux installés, des émigrés, une fois valablement acquise, ne pouvait être remise en cause par une déchéance. Et ces interprètes ont donc voulu voir dans les édits d'expulsion le refoulement juridiquement inattaquable et fondé d'individus qui ne pouvaient pas avoir acquis la citoyenneté romaine. Des mesures policières, dit-on, d'expulsion d'étrangers, et pas du tout des décrets de déchéance de la citoyenneté romaine. Et pour ne pas admettre l'idée d'une déchéance unilatérale, ces historiens ont condamné l'existence même du jus migrandi, qui serait une invention de l'école de Mons. Le Sénat n'aurait expulsé que des étrangers qui ne pouvaient pas être des citoyens romains. Je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège de ce type de lecture déformée par des perspectives actuelles. Les témoignages antiques sont formels, le jus migrandi n'est pas remis en cause par ces mesures d'expulsion, il est même, je dirais, confirmé par les ordres de refoulement, à preuve, les résultats des recensements qui ont suivi les décrets de renvoi, le nombre des citoyens romains marque une chute brutale que les autorités romaines elles-mêmes reconnaissent sans détour comme les conséquences des mesures, qu'il faut qualifier par leur nom, des mesures de déchéance. Nous sommes donc en présence de deux réalités, aussi incontestables qu'elles sont antinomiques. Les mesures décidées par le Sénat doivent être prises pour ce qu'elles sont, des mesures de circonstance, mais bafouant le principe du jus migrandi, du droit à l'accès en principe irrévocable et intangible à la citoyenneté romaine. Ce sont des mesures de circonstance prises sous la pression des cités latines et fédérées, mais des mesures graves qui transgressent des principes respectés jusque-là. La réponse, bien plus politique que juridique, que Rome apporta à ses plaintes, laisse évidemment un goût amer. L'urgence et l'opportunisme ont eu raison des principes. Et je pense que la question est d'actualité, on le sait. Des pays de tradition d'ouverture ont pu ou peuvent être tentés par la déchéance de nationalité, une idée absolument inconcevable il y a peu dans nos mentalités. Rome offre ici un exemple, un précédent, qui ne veut pas dire qu'il faille le suivre, peu glorieux, entre le droit et le calcul politique qui aura dans nos civilisations le dernier. Et j'en viens au deuxième moment de crise qui est celui de la guerre sociale. On a beaucoup écrit sur la guerre sociale, mais on sait peu sur elle. Une guerre provoquée, même si tout récemment le contraire fut affirmé, par un brusque raidissement de la politique romaine de romanisation. Au début du 1er siècle avant notre ère, à partir de 95, un mouvement de masse de tous les alliés de l'Italie, à l'exception des cités de Grande Grèce, un mouvement de masse se dessine et réclame l'intégration dans la citoyenneté romaine. La réponse des juristes ne se singularise pas par son ouverture. Et Quintus Lucius Scaevola, le père fondateur du Ius Civile, a répondu à cette demande par une loi en 95 qui a renforcé une nouvelle mesure de déchéance par un tribunal criminel d'exception. Et la réponse à cette loi, ce fut en 91, l'insurrection de toute l'Italie non romaine, qui a fini par faire sauter le verrou. L'Italie, on le sait, est devenue totalement romaine. Ce que je voudrais souligner ici, c'est la manière, à mon sens révélatrice, dont les Romains ont perçu et jugé cette guerre. Ils ont, il me semble, répugné à regarder cette guerre pour ce qu'elle était, comme la révolte des Socii, de ses alliés et partenaires de la puissance romaine, révoltés du fait de l'ingratitude de celle qui devait apparaître comme leur mère patrie. Et de fait, l'expression que nous avons faite, la nôtre, de guerre sociale, l'expression de bellum sociale est très rare. On trouve au contraire chez les historiens contemporains après cette guerre d'autres expressions. Bellum marsicum, la guerre des Mars. Bellum cimbricum, la guerre des Saints. Bellum italicum, la guerre italique. Chez Cicéron, Pline l'Ancien, Diodore de Sicile, Suétone, Plutarque, Trope Pompée, Tite Livre, Asconius, Valerius Paterculus. Donc, pratiquement, il y a ici une unanimité des historiens à ne pas avoir appelé cette guerre pour ce qu'elle était, la révolte des Alliés. L'expression bellum sociale, qui existe tout de même, est exceptionnelle. On la trouve, semble-t-il, que dans deux passages, l'un chez Cicéron, dans son discours Pro Fonteio, 41, et chez Florus, plus tard. En donnant à cette guerre le nom très réducteur de l'un ou l'autre peuple révolté, la majorité de la mentalité romaine voulait se fermer les yeux. Elle niait la réalité véritable de cette guerre, elle en marquait la profondeur et tentait de ne pas en admettre la profonde justification. Et au contraire, l'expression de bellum sociale, qui me paraît tout à fait significative, et par sa rareté, et par sa portée. Elle témoigne de la part des rares auteurs, Cicéron et Florus, d'une exceptionnelle clairvoyance, mais aussi d'un profond sentiment de culpabilité de la part de Rome, aveugle et ingrate dans son refus d'accorder spontanément la citoyenneté à tous les Socii. Il faut éclairer l'expression cicéronienne, le premier à l'avoir forgée, par sa conception exposée au De Officiis, certes après de nombreuses années après avoir écrit le plaidoyer Pro Fonteio, sur la nature du lien social entre les hommes, sur cette societas humana, ce lien naturel qui caractérise le genre humain. Le genre humain se définit non pas par des rapports d'hostilité ou de rivalité, mais par une societas communis humani iuris, par des liens d'affection, par une communauté d'intérêts, par le sentiment d'appartenir à une même patrie. Ainsi, la guerre des Alliés, la guerre entre les Alliés, entre les Socii, définis comme les membres de la même societas, est le signe le plus visible, sans vouloir peut-être trop interpréter l'expression forgée par Cicéron, est le signe le plus visible d'une atteinte odieuse à ce lien élémentaire qui doit unir tous les hommes dans les liens d'une même citoyenneté. Rome s'est rendu coupable d'avoir méprisé, d'avoir bafoué ce lien, les Socii, par le droit des armes, lui ont rappelé par leur victoire ce devoir naturel. Deux siècles après, Florus, à l'époque d'Adrien, renoue avec cette expression de bellum sociale et la rend encore plus lisible, et je voudrais ici lire rapidement ce passage caractéristique chez Florus. On peut l'appeler guerre sociale pour en atténuer le caractère odieux, mais à vrai dire, ce fut une guerre civile. Le peuple romain s'étant mêlé aux Étrusques, aux Latins, aux Sabins, tire son origine d'un sang commun à celui de tous ces peuples. Son corps étant composé de leurs membres, c'est à eux tous qu'il doit d'être un seul corps, corpus fecit, ex membris, et ex omnibus unus est. C'est pourquoi, comme les alliés demandèrent en toute justice à jouir des droits d'une cité qui devait son accroissement à leur force, tout le Latium, le Picénum, l'Étrurie, la Campanie et l'Italie se soulevèrent contre Rome, contra matrem suam ac parentem. Pourquoi, de la part de Rome, avoir répondu dans un premier mouvement, le temps de perdre une guerre d'une extrême cruauté qui n'aurait jamais dû voir le jour, pourquoi avoir répondu par ce raidissement incompréhensible? La réponse serait trop longue, probablement les contraintes d'une cité-État qui ne voyait pas, sans modifier ses institutions, ce qui arrivera, un développement territorial et une extension civique sur une aussi large échelle. L'histoire républicaine, comme votre patience, touche à sa fin. On sait que sous l'Empire, cette fois à l'échelle du monde, Rome poursuivit cette extraordinaire ouverture aux vétérans des forces militaires par la concession de dizaines de milliers de diplômes militaires, aux magistrats locaux des cités provinciales l'extension de la citoyenneté, enfin le fameux édit de Caracalla qui ne laissa personne au bord du chemin. Et l'ouverture ne fut pas de façade, il suffit de relire l'oratio de Claude devant le Sénat de Rome, incitant à accueillir parmi les sénateurs les citoyens originaires de Gaule, Claude rappelant avec orgueil l'origine étrangère de ses propres ancêtres. Non, vraiment, nos ancêtres les Gaulois est un mythe qui n'avait pas sa place à Rome. Merci.